là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la lutte de Bure dans la Meuse, où un immense projet, pour le moment, c'est encore un projet parce qu'il fait l'objet d'une lutte intensive, chaotique, mais il y a toujours des gens, des personnes sur le terrain qui sont en bataille. Particulièrement, aujourd'hui, on va parler avec une complice ici présente des expropriations agricoles. Alors, si tu veux bien...
Bonsoir. Du coup, pour présenter rapidement le projet de poubelle nucléaire à Bure. Donc, Bure, c'est un village qui est en Meuse, un village de 80 habitants et qui est vraiment à la frontière de la Haute-Marne. Et dans les années 80-90, l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, avait déjà essayé d'implanter des projets de poubelle nucléaire un peu partout en France et ça avait été repoussé. Donc du coup, en 2000, elle a plutôt choisi d'implanter un laboratoire de recherche, soi-disant laboratoire, parce que il n'y avait pas non plus de recherche à cette époque-là.
L'idée particulièrement maléfique, c'était de parler de laboratoire, puisque laboratoire, ça faisait moins peur aux populations locales, mais ce laboratoire est vite devenu un projet sérieux et un projet
il était d'emblée sérieux, hein. Il a toujours été question en fait en réalité de faire une poubelle nucléaire à cet endroit là et d'ailleurs on est toujours dans la manipulation du discours puisque ça s'appelle CIGEO. CIGEO ça veut rien dire pour personne, par contre poubelle nucléaire ça veut dire quelque chose.
Et le projet de laboratoire aussi, si Bure a été choisi, c'est soi-disant parce qu'il y a de l'argile en sous-sol. Et en fait, il était censé y avoir un autre laboratoire en France, plutôt concernant du granit, il me semble. Ce laboratoire n'a jamais eu lieu, donc il n'y a jamais eu de comparaison possible. Et en fait, dès le début, ça a été choisi que ce serait à Bure.
C'est ça. Alors, au niveau des... Donc, aujourd'hui, la... À moins que tu aies eu envie de parler des derniers moments de lutte importants.
Je peux détailler un peu plus c'est quoi ce laboratoire aussi.
Oui, tout à fait.
Parce que du coup, l'idée, c'est d'enfouir les déchets hautement et moyennement radioactifs à vie longue de France, produits par l'industrie nucléaire ces dernières décennies. Donc l'idée, c'est d'enfouir tout ça à 500 mètres sous terre, dans un réseau de galeries qui ferait plus de 250 km de long. Donc c'est beaucoup plus que le métro parisien, par exemple, qui fait 220 km. Dans ces galeries, aujourd'hui, ce n'est qu'un laboratoire. Il y a 2 km tests déjà sous terre qui sont creusés. Il y a déjà eu 2 morts, des ouvriers qui sont morts suite à des éboulements. L'ANDRA est en phase de test et ne maîtrise déjà pas. Et on peut se poser la question de combien il y aura de morts avec ce projet-là aussi, parce que l'Andra ne maîtrise pas tout.
Oui, on peut parler comment il y a eu ces accidents dans lors de la phase de creusement des galeries. Il y a eu des effondrements d'argile et dans lesquels les personnes ont été ensevelies ou grièvement blessées.
Et le dernier effondrement, c'était en 2016. Et il y a deux entreprises qui ont été jugées pour ça en février de cette année, Eiffage et Antea, qui étaient jugées responsables pour des raisons de sécurité. Et en fait, ces deux entreprises ont été relaxées en avril, par exemple. Donc pour continuer de parler de Cigéo, donc si vous allez à Bure aujourd'hui et si vous voyez à quoi ressemble le labo, en fait le labo est tout petit par rapport au projet Cigéo. Donc Cigéo, c'est vraiment le plus gros projet industriel européen actuel qui va nécessiter plusieurs années de construction et qui n'est toujours pas autorisé. Enfin, pour ça, il faudrait l'autorisation de création, la DAC, qui a un gros dossier actuellement en cours d'instruction et qui pourrait être validé seulement à partir de 2027. Donc, ce n'est pas encore d'actualité. Il n'y a pas encore de déchets aujourd'hui à Bure. Et si vous allez à Bure aujourd'hui, donc, vous pourrez voir le laboratoire qui se visite. Il y a plein d'écoles, il y a plein de bus qui visitent une partie du laboratoire à travers le centre technologique et toute une propagande qui se déploie en faveur de l'Andra. Il y a aussi là-bas une écothèque, donc c'est une espèce de musée de la nature qui montre quelle était la nature présente avant Cigéo et à quel point tout va être détruit. Il y a aussi les archives nationales d'EDF, pas très loin il y a les archives d'Areva. Et il y a aussi un hôtel-restaurant dans lequel on peut croiser soit des ingénieurs de l'Andra, soit des gendarmes, parce qu'il y a un escadron de gendarmes mobiles qui est présent 24/24 depuis 2017, qui est payé en grosse partie par les impôts, quoi, par le nucléaire. Donc voilà, un petit peu pour montrer le panorama qui est là-bas.
Oui, moi je voulais préciser des choses par rapport à cette force de propagande de l'État nucléaire et de l'Andra en particulier, puisque l'Andra, comme les nucléocrates, constitue un État dans l'État français. C'est sa capacité de propagande vis-à-vis des populations locales à savoir, et ça, c'est pas nouveau, puisque c'est quelque chose qui a été entrepris déjà lors des constructions de centrales nucléaires, en s'agissant d'acheminer non pas des déchets, mais des populations locales, des enfants en l'occurrence, des classes, des écoles, pour leur faire gober la qualité et les potentialités que revendique l'Andra de travailler pour l'environnement. En fait, faire croire aux populations locales, par le biais des enfants, et de leur dire que, vous voyez, nous, on travaille pour l'écologie. Et aujourd'hui, ça, c'est une véritable science de la propagande, puisque à la période où on dit haut et fort qu'en matière énergétique, le nucléaire est une énergie décarbonée et que toutes les populations maintenant, une bonne partie du moins des populations, croient en cette religion de l'atome propagée par l'État français, il est facile, il est simple d'emmener des classes complètes, des écoles complètes, financées pour attendrir ces enfants, ces écoles, quoi. Et donc, pour achever le chapitre, c'est des forces armées qui sont directement associées à la capacité, parce qu'ils sont pourtant d'apparence tellement sûrs d'eux, puisqu'ils disent qu'ils vont mettre une écothèque, tu as cité le mot d'écothèque, c'est-à-dire qu'on a mis en boîte tout le vivant, c'est-à-dire qu'il y a eu des structures qui ont archivé, capturé tout ce qui représente le vivant, donc en végétal et en animal également, en boîte, en congélation. Et donc tout ça pour donner à voir à qui veut bien l'État avant l'installation des déchets, puisqu'on a dit les déchets ne sont toujours pas à Cigéo, et je pense que on gagnera. Donner à voir l'état du milieu de Bure avant le désastre qu'infligerait le stockage de ces déchets nucléaires en termes de destruction du vivant, en termes de destruction des nappes phréatiques, puisque tout le bassin versant qui part de Bure vers la région parisienne, hein, c'est un immense bassin versant qui emmène les eaux phréatiques jusqu'en région parisienne, c'est la pollution de toutes ces eaux-là. Donc, à des heures cruciales où l'on parle de qualité des eaux, c'est complètement aberrant et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour défendre cette lutte et qui ne va pas s'arrêter comme ça.
Il y a aussi tu parlais de la propagande et du fait de faire venir des enfants dans les installations, etc. Il y a aussi en Meuse et dans la région un coup de projecteur qui est mis sur les formations qui vont mener les gens au nucléaire. Donc tous les postes en apprentissage, tout ça, c'est des métiers qui sont les métiers qui sont valorisés dans cette région sont des métiers qui vont être dépendants de la structure du fait de l'existence de cette future structure industrielle. Et donc on prépare des étudiants à faire des métiers qui ils seront obligés de défendre le projet parce que sinon ils n'auront pas d'emploi dans leur bassin de vie, quoi, ou alors bon, peut-être qu'ils voudront déménager. Mais en tout cas, on inféode d'emblée, d'avance, les jeunes à ce projet industriel pharaonique, quoi.
Et c'est pas que les étudiants pour répondre, c'est aussi les collégiens, parce qu'en février, il y avait un salon du métier du nucléaire au labo, à Bure, et en fait, il y avait 500 collégiens qui étaient affrétés en bus, et aussi des étudiants, des demandeurs d'emploi, lapsus, qui venaient aussi pour recevoir la propagande de l'ANDRA. Donc il y a à la fois ça, et à la fois il y a eu une tentative ces dernières années de nucléariser le territoire au-delà de la poubelle nucléaire. Enfin, il y a un moment où il y avait un projet de Lavery, le projet Unitech à Joinville, donc de Lavery, des vêtements irradiés, si je ne dis pas de bêtises, qui a été annulé il y a quelques années, et là ce projet se retrouve au budget. Et il y a eu aussi un autre projet, Saint-Dièse, vraiment juste à côté de Bure, de quoi ?
Ben de comment dire, de destruction de la forêt pour en faire une production d'énergie.
De biocarburant.
Oui, c'est ça.
Et ça a été délocalisé en Bretagne, où maintenant ça s'appelle Biotifuel, quelque chose comme ça. Et il y avait aussi un autre projet de plateforme de convoi radioactif à Voie-Vacon, pas très loin. Enfin, le labo, quand il s'est implanté, il y a vraiment eu la promesse d'emploi sur le territoire qui était avec ça. Et dans les faits, il n'y a pas plus d'emplois que ça. Et dans les faits, le territoire, il continue de se dépeupler. Il y a quelques années, le collège de Monty a fermé. Là, se pose la question de si le collège de Gondrecourt-le-Château, il ne va pas fermer aussi.
Tout ça, on peut penser que c'est qu'il y a quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais à l'instant, hein, par rapport à la propagande vis-à-vis des classes, des collèges, mais il y a aussi le secteur beaucoup plus d'ingénierie, parce que en fait EDF a un gros problème de ressources en ingénierie, tout comme il a un gros problème au niveau des gens qui maîtrisent la soudure de haute qualité. Il faut quand même le souligner. Il y a eu des crises dans les réacteurs nucléaires, des crises génériques qui ont été entraînées parce que en fait il y a eu des accidents structurelles dans plusieurs centrales nucléaires qui ont entraîné l'arrêt de toutes les centrales françaises, et ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est le cas à Chaux. Il y a eu récemment des soucis, donc ça c'est des problèmes de corrosion et de matériaux de construction des fameux tubes qui contiennent l'uranium, qui contiennent les pastilles d'uranium, enfin, si je ne me trompe pas. En fait, c'est des problèmes de corrosion. Il faut une haute technicité de soudure pour pouvoir réparer ça. À tel point que EDF a été obligé d'employer la robotique, croyant parvenir à ses fins. Mais ça, c'est pas gagné. Mais ça, c'est, je précise ça parce que effectivement, EDF est vraiment dans la mouise par rapport à son personnel, que ce soit des ingénieurs. Donc, elle essaye de motiver et de former des élèves, mais je pense que c'est pas forcément bien parti, quoi.
En tout cas, c'est un procédé qu'on connaît bien dans le nucléaire, de toute façon, qui est complètement rodé, hein, ce procédé de propagande, puisque depuis des années et des années, on emmène aussi gratuitement des classes visiter les centrales nucléaires et leur faire, j'allais dire, la publicité de tous les bienfaits du nucléaire, quoi.
Et pour revenir sur cette propagande, enfin, moi, j'aimerais aussi ajouter que, en parallèle de tout ça, les territoires sont arrosés économiquement. Enfin, il y a le GIP, donc le groupement d'intérêt public, qui est une sorte de subvention financée par le CEA, Orano, etc., pour tout le territoire de la Meuse et de la Haute-Marne. Donc, il y a 30 millions d'euros qui sont payés chaque année à ces deux départements, donc 60 millions d'euros, pour des projets de réfection de lavoirs, de construction de nouveaux lampadaires flamboyants aux couleurs de l'Andra, construction de trottoirs alors qu'il n'y a pas tellement de piétons, construction de gendarmerie, ça il y en a besoin. Donc il y a tous ces projets-là qui sont financés depuis les années 2000 par le GIP, et en fait ça permet aussi d'acheter les élus, clairement, parce qu'il y a des élus qui considèrent que l'arrivée du laboratoire et de CIGEO, c'est un bienfait pour le territoire.
Orano, tu peux préciser, rappeler ce que c'est, Orano ?
Orano, c'est l'ex Areva.
D'accord.
Peut-être on pourrait faire, là, comme on parle du projet en lui-même, une petite, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'entreprises impliquées, mais les plus grosses qui sont impliquées dans le projet et qui potentiellement vont en bénéficier si jamais... Enfin bref, tu vois.
Les sous-traitants ?
Par exemple, ouais, de l'endroit.
Parmi les sous-traitants, donc tout à l'heure je parlais d'EFH, par exemple, évidemment ils sont impliqués aussi dedans. Il y a un GEROP qui est le maître d'œuvre de l'entreprise et contre lequel il y avait un appel à action il y a quelques temps, qui a été un petit peu suivi. Et notamment, il y a eu des données qui ont fuité concernant un GEROP. Donc ça, c'était une grosse action qui a bien marché. On peut aussi parler de POMA, qui est un peu connu depuis quelques temps parce que il y a un appel à action en cours contre POMA depuis que l'entreprise à 50 km de Bure travaille sur un prototype pour la descendrie.
Descendrie, il faut qu'on précise.
Ouais, et POMA, il faut que je précise aussi. Enfin, POMA, c'est une entreprise qui est connue dans les Alpes, dans les Pyrénées, pour le transport par câble, tout ce qui est téléphérique. Et en fait, pour CIGEO, donc pour descendre les déchets à 500 mètres sous terre, il faut qu'il y ait une sorte de téléphérique souterrain aussi. Une descendrie, un funiculaire, un transport par câble, quoi. Et POMA, qui est une entreprise qui est plutôt connue pour le tourisme de masse en montagne, qui a une image un peu familial, contribue à l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et il y a eu quelques actions menées ces derniers mois, que ce soit dans les Alpes, que ce soit à Grenoble, où il y avait un projet de téléphérique POMA qui a été annulé récemment. Et les œufs de Grenoble sont aussi de POMA. À Toulouse, où il y a eu un téléphérique inauguré par POMA aussi. Enfin, il y a eu quelques petites actions de graffiti, de perturbation, d'inauguration, etc. Et il y a eu aussi une action de déboulonnage de pylônes POMA dans les Alpes, sur laquelle il y a eu une enquête quelques mois après, probablement dans la peur que les actions décentralisées se multiplient encore. Il y a deux personnes qui ont été arrêtées, qui ont été inculpées d'associations de malfaiteurs pour ça, et qui ont toujours une interdiction de communiquer entre elles, de venir à Bure, d'aller sur des sites portés par l'Andra ou par POMA. Et c'est des personnes qu'on salue bien fort et qui auront probablement un procès d'ici quelques mois. Donc on en reparlera sûrement. Par rapport aux autres sous-traitants et acteurs concernant Cigéo, en fait, ils ont été référencés sur un site internet qui s'appelle lesmonstresdecigeo.noblogs.org. Et il y a une carte qui est un peu datée, mais qui mériterait d'être mise à jour, mais où sont référencés les différents sous-traitants. Donc il y a à la fois, on parlait de pommade, éphage, d'ingérope, mais il y en a aussi plein d'autres qui sont dessus, et il y a quelques informations intéressantes aussi.
Bon, il y a quelques instants, tu évoquais l'inculpation de plusieurs personnes sous le chef d'inculpation d'associations de malfaiteurs. Ce n'est pas la première fois, je crois, que différentes personnes ont été inculpées sous ce vocable juridique. Ça a eu des conséquences assez graves sur la mobilisation, sur le mouvement et sur les personnes, bien évidemment. C'était à l'occasion de toute cette phase de lutte entre 2015 et 2016, l'occupation de la forêt, l'occupation du bois Le Jus. Et les expulsions, et les expulsions de la forêt, les destructions des habitats, des cabanes, des barrages, et la perquisition très intensive des forces militaires. Est-ce que tu peux reparler un peu de ces événements-là que tu as dû connaître également ou...
Moi, j'ai l'impression que tu as déjà dit beaucoup de choses. Que du coup, oui, pour revenir à ces dernières années, en 2016, suite à la loi travail, enfin à peu près la même époque, pendant l'été, il y a eu l'occupation du bois Le Jus. Et le bois Le Jus, donc, c'est une forêt qui n'est pas très loin de Bure, Mandre et Bonnet. Et c'est une forêt qui était à ce moment-là... venait d'être acquise par l'Andra, mais à la base c'était une forêt municipale de la commune de Mandre qui avait été échangée avec l'Andra de manière ultra mesquine, à vote secret, à 6h du matin au conseil municipal, enfin dans des règles qui crapuleuses qui ont ensuite été attaquées juridiquement. Mais le vote avait été reconduit en 2017. Et en 2017, cette forêt appartenait à l'Andra. Pourquoi l'Andra voulait acquérir cette forêt, en fait, c'est que son but, c'est d'enfouir les déchets sous terre, sous cette forêt, grosso modo. Et les gaz radioactifs s'échapperaient par le biais des cheminées qui seraient mises en place dans le bois Le Jus. Donc du coup, en 2016, cette forêt a été occupée pendant 3 semaines, il me semble, avant d'être expulsée. Et après, il y a eu un nouveau pique-nique interminable qui a relancé une occupation pendant 1 an et demi, où il y avait une vie en forêt avec... des cabanes, avec des barricades, enfin voilà, une occupation de forêt, et qui s'est terminée en février 2018, oui, il y a plus de 5 ans, en février 2018, donc au moment où Manuel Valls, il me semble, disait qu'il ne voulait plus de ZAD en France.
Exactement, oui. Nouvelle Notre-Dame-des-Landes, oui.
Donc, entre l'annonce de la fin de l'aéroport et les expulsions de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu l'expulsion du bois Le Jus par 500 gendarmes mobiles à, je ne sais plus, ils devaient faire moins 10 degrés et ils ont réussi à expulser 15 occupants de la forêt. Et à partir de ce moment-là, on a vécu une forte période de répression à Bure, qui a duré à peu près 2 ans, en 2018-2019. Où il y a eu pas mal de contrôles d'identité, pas mal de procès pour des motifs parfois complètement absurdes, que ce soit la détention d'une pelle à tarte ou posture ninja à l'encontre des forces de l'ordre. Donc il y a eu plusieurs procès avec des interdictions de territoire, une militarisation assez féroce, avec une présence des gendarmes mobiles devant la maison de résistance, devant la mairie, mais qui est à côté de la maison de résistance, H24 pendant 5 mois. Et en juin 2018, il y a eu une perquisition suite à un gros événement de manifestation à Bar-le-Duc. Une perquisition de plusieurs lieux de vie, publics et collectifs et privatifs. Il y a environ 6-7 camarades qui ont été inculpés dans cette association de malfaiteurs. Je dis 6-7 parce que les chiffres ont changé, il y a des personnes qui ont été ajoutées ensuite ou qui ont été retirées. Et du coup, ces personnes-là qui avaient été inculpées l'été pour des motifs différents, pour une association de malfaiteurs qui n'avait rien de commun, pour des motifs en 2017, pour des motifs un peu plus tard, pour des événements différents, l'organisation de manifestations ou des empreintes retrouvées à d'autres moments dans la forêt. Bon, en gros, l'objectif était clairement politique, c'était de nuire à la lutte antinucléaire et de faire en sorte, en arrêtant des personnes vivant dans la forêt ou des personnes issues des associations ou des personnes impliquées de différentes manières, l'idée c'était simplement de tuer la lutte antinucléaire dans l'œuf, quoi.
On a aussi eu à la même période la saisie de tout le matériel de travail de l'avocat de la lutte. Son ordinateur avait été saisi là pour le coup, alors comme il est avocat quand même, il y a d'autres avocats qui sont mobilisés, ils ont été obligés de lui restituer son matériel.
Oui, parce mais... que le secret d'instruction, enfin, c'est
oui,
qu'il
voilà,
y a des
voilà.
dossiers dedans.
Mais en attendant, ils ont quand même chopé le matériel et dans le laps de temps où ils l'ont gardé, on n'a jamais su s'ils avaient pompé ses données, enfin, tout ce qu'il avait par informatique concernant les dossiers de défense des personnes qui défendaient justement.
Oui, alors l'avocat Ambroselli, il a été aussi en garde à vue à ce moment-là. Et heureusement qu'il y a eu des avocats et des avocates qui se sont mobilisés. Je crois même qu'il y a eu un des responsables de, comment on appelle ça, le doyen des avocats,
le bâtonnier
de Paris qui s'était déplacé pour le soutenir. Et il y avait une dizaine d'avocats ce jour-là au tribunal de
parce que là,
Bar-le-Duc.
Là, on était clairement dans l'atteinte au droit de la défense.
Exactement.
Voilà. Et au secret professionnel de fait.
Et il y a d'autres inculpés en garde à vue à ce moment-là, associations de malfaiteurs, qui ont appelé ce même avocat. Et les gendarmes ont dit « Ah ben non, il ne peut pas venir te défendre, il est en garde à vue
oui, ».
C'était complètement démentiel comme situation.
Donc là, on est revenu sur les éléments du passé concernant Bure. On va peut-être passer justement à ce qui pointe son nez actuellement, puisqu'il y a de nouveau une remobilisation par rapport à des événements récents. Dont on a parlé dès le début, hein. Il s'agit des avis d'expropriation qui commencent à tomber.
Oui, donc il n'y a pas que les expropriations qui sont en train de tomber en ce moment. Donc en fait, pour récapituler un petit peu ces dernières années, donc en 2022, il y a l'utilité publique du projet qui a été votée, déclarée par Elisabeth Borne à l'époque. Donc l'utilité publique, c'est pas l'autorisation de CIGEO, c'est-à-dire que CIGEO n'est toujours pas autorisé, CIGEO est toujours en cours d'instruction pour le moment. Mais l'utilité publique permet tout ce qui est travaux connexes au chantier. Donc tout ce qui est, par exemple, déforestation, défrichement du bois Lejus dont on parlait tout à l'heure, où il y a projet quand même de défricher aux deux tiers la forêt. Il y a projet aussi de transformateur électrique qui pourrait commencer maintenant, les expropriations, mais aussi la déviation de route départementale, la construction d'une voie ferrée, etc. Donc ça, tout pourrait commencer dès aujourd'hui, avant l'autorisation de création.
C'est subtil parce qu'ils n'ont pas encore le droit de faire une poubelle nucléaire, mais par contre, ils ont le droit de faire tout ce qui permet de la faire.
Bah, ils avancent, enfin, c'est la politique du fait accompli.
Ouais, c'est là qu'on voit quand même la capacité mensongère du procédé aussi. Enfin voilà, on connaît cette histoire-là. Et en plus, c'est aussi un procédé qui s'appuie sur l'usure du temps. On prend des dizaines d'années, hein, et ça use tout le monde. Moi, je, enfin voilà, je, ça fait partie de la stratégie. Aujourd'hui ou hier, on vient de déclarer la possibilité de démarrer l'EPR à Flamanville, avec 12 ans de retard plus les années de construction. Hein. Voilà, donc toute cette industrie mortifère, en fait, et c'est pas la seule, on en connaît d'autres, prend le temps des dizaines d'années pour se concrétiser. Et le mensonge accompagne systématiquement tout le processus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc, ce que tu disais, c'est que là, il n'y a pas seulement les avis d'expropriation qui arrivent, mais aussi la déclaration d'utilité publique pour des tas de travaux
publique,
connexes.
L'utilité publique a été votée et peut permettre tous ces travaux-là. Mais pour chacune de ces étapes que j'ai citées, il y aurait quand même des procédures qui s'engrangeraient, enfin des mini-utilités publiques qui devraient se mettre en place, etc. Nous, on se posait la question par quoi l'Andra va commencer suite à l'utilité publique, parce qu'elle pourrait très bien commencer par le défrichement de la forêt qu'on a occupée pendant plusieurs années, elle pourrait très bien commencer par dévier des routes et commencer... un gros chantier qui perturberait, qui détruirait une grosse partie du paysage et peut-être qui amènerait aussi des gens à sentir que le projet est là et à partir. Donc on se posait la question par quel bout l'Andra allait commencer. Fin 2023, donc à la fin des recours juridiques concernant la DUP, on a eu comme annonce que l'Andra allait commencer... aller avancer sur trois étapes cette année 2024, par les fouilles archéologiques, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais qui sont concernées, à savoir qu'il y avait eu des fouilles préventives il y a quelques années, le laboratoire de Bure-Saudron est installé en fait sur une enceinte néolithique qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est des découvertes qui sont assez rares et quasiment inconnues des archéologues. Ce serait sûrement la seule enceinte néolithique accessible dans le Grand Est, par exemple. Donc il y a des enjeux archéologiques à procéder à ces fouilles et éventuellement à ce que ça puisse faire une autre forme de barrage au projet de poubelle nucléaire. Donc il y a ça qui pourrait commencer dès cette année. L'Andra nous annonçait aussi qu'une entreprise locale a été choisie près de Joinville, avec Ville, pour faire un nouveau démonstrateur, test concernant l'enfouissement des déchets radioactifs. C'est une entreprise locale qui a été valorisée dans les articles de presse. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs attaques de l'INTHT qui visaient cette entreprise et que l'électricité a été coupée il y a quelques semaines. Donc il y a une réponse à ça. Et on a eu aussi les annonces des expropriations sur lesquelles je vais passer un peu plus de temps.
Excuse-moi, je voulais juste faire une remarque par rapport à la découverte de ce site archéologique unique dans le Grand Est. C'est qu'il fallait faire très attention à une chose, c'est que l'Andra peut très bien concéder de mener des fouilles archéologiques d'envergure et de s'en servir comme vitrine pour son projet. Parce que je crois savoir que ce site n'est pas un site d'un point de vue de la superficie par rapport aux 3-4 000 hectares des terres, d'emprise des terres de l'Andra pour ce projet CIGEO, que ce site doit concerner une centaine d'hectares tout au plus. Et donc attention que ce ne soit pas justement... c'est important qu'il y ait des fouilles, mais...
Attention ou pas attention, de toute façon, s'il y a des découvertes archéologiques, l'Andra est obligé d'arrêter les travaux d'une part, donc c'est pas qu'ils concèdent, c'est qu'ils ont l'obligation, et ensuite ils sont obligés de payer. Et c'est là que ça devient compliqué par rapport à l'archéologie, c'est que comme ils payent, ils donnent aussi un délai, il faut se dépêcher.
Voilà. Donc des fouilles escamotées, en fait.
Et forcément, ils réutiliseront ce qui aura été découvert. C'est même pas imaginable autrement. Voilà.
Après un rapide historique et un aperçu de la répression qui s'abat sur les militants, Voici une présentation des luttes en cours et à venir autour de Bure et sa région.
Début mars, certains propriétaires de terrains convoités par l'Andra ont été contactés par courrier avec accusé de réception. Donc propriétaires, mais aussi copropriétaires, co-indivisaires, usufruitiers, etc. Donc c'était un dossier plutôt cadastral qui demandait confirmation sur la superficie des parcelles concernées, qui demandait confirmation sur les informations état civil, etc. Et qui lançait une dernière proposition à l'amiable, parfois aux personnes concernées. Donc du coup, ces dossiers ont été envoyés à peu près 300 propriétaires, donc toute cette grosse catégorie que je citais tout à l'heure, donc soit des particuliers, des communes ou des associations foncières. Donc 300 propriétaires sont concernés par les expropriations actuellement pour à peu près 550 surfaces. Et les surfaces, je vais revenir après sur le détail, mais c'est des parcelles agricoles, des bois ou des chemins. Et parmi celles-ci, il y a l'ancienne gare de Luméville, qui est plutôt connue dans la lutte antinucléaire, puisque il y a eu pas mal d'événements organisés là-bas. C'est un assez grand terrain qui était une ancienne gare. Et il y a eu des événements à 500, 800 personnes organisées ces dernières années, dont le camp des Rayonnantes en 2021. Et parmi les terrains également concernés par les expropriations, il y a une partie du champ des semeuses, donc un collectif de maraîchage, qui organisait l'année dernière sur ces terres, sur cette partie, le camp des luttes paysannes et rurales, et qui a rassemblé 800 personnes en août-septembre 2023. Donc pour détailler un peu cette procédure d'expropriation, pourquoi l'Andra exproprie aujourd'hui ? L'Andra a besoin pour son projet d'acquérir de nouvelles terres, donc que ce soit des terres en surface ou des terres en tréfonds, donc souterraines on va dire. Donc concernant les surfaces, en fait l'Andra a besoin d'exproprier les terres qui sont sur le tracé d'une voie ferrée qu'elle aimerait faire construire. Donc une voie ferrée de 14 km entre Bure et Gondrecourt-le-Château, donc sur laquelle sont les parcelles de la gare et le champ des semeuses dont je parlais tout à l'heure. L'Andra, qui avait acquis par voie d'échange le bois Le Jus il y a quelques années, aurait besoin d'acquérir en souterrain la partie sud-est du bois Le Jus, donc ce qui correspond à la vallée de l'Ormançon. Et l'Andra aurait besoin aussi d'obtenir la liaison intersite. Donc ce serait une sorte d'énorme route à construire entre le labo et le bois Le Jus. Donc selon l'Andra, les procédures d'acquisition, d'expropriation dureraient 20 mois. Donc ça signifierait 2024-2025. Et ça prendra plusieurs étapes, comprenant notamment des recours juridiques, avant qu'il y ait une expropriation et ensuite une expulsion. Enfin, le processus n'est pas le même. C'est encore possible de rester sur un endroit dont on a été exproprié, dont le propriétaire est l'Andra. Expropriation ne signifie pas expulsion. Les données de parcelles que l'Andra convoitait il y a quelques années ont changé, augmenté. C'est-à-dire que d'un coup, la voie ferrée fait 9 mètres de large, ce qui était beaucoup moins avant, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup plus de terres expropriées. Donc ça, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Grosso modo, depuis mars, il y a eu ces informations, il y a eu ces courriers qui ont été reçus. Donc en fait, les terrains là que l'Andra est en train de demander encore par la force, c'est tous les terrains qui n'ont pas pu être acquis ces dernières années. Parce que ces dernières années, il y a eu pas mal d'échanges de faits, pas mal d'acquisitions. Tout à l'heure, on parlait de l'échange du bois Le Jus, par exemple. Donc la forêt municipale de Mandrembarois avait été échangée contre une autre forêt. Il y a eu d'autres échanges de champs, de forêts ces dernières années. Et l'Andra, par le biais de la SAFER notamment, possède énormément de billes sur le territoire qu'elle peut échanger à tir la volée. Et concernant ces acquisitions. En fait, c'est assez connu dans la région que ça ne s'est pas toujours passé à l'amiable, contrairement à ce que l'Andra dit publiquement. En fait, il y a eu énormément de harcèlement et de chantage exercé sur les agriculteurs pour obtenir ces territoires. Et un des odieux personnages qui manifestait tout ça, c'était Emmanuel Hans, un ingénieur de l'Andra en charge du foncier, qui est en poste depuis près de 10 ans, peut-être même plus. Donc en fait, il faut se dire que ces dernières années, les directeurs de l'Andra, ils changent tous les 3 ans et il y a un remplacement. Mais en fait, derrière la petite main qui va voir les agriculteurs, qui fait du porte-à-porte, qui met une pression incroyable, qui exerce un mépris condescendant sur les agriculteurs du coin, et ben en fait, c'est toujours le même type qui est en poste pour faire ça. Et ce type-là, pour donner un autre exemple de son mépris, quand il y avait l'occupation du Bois-le-Jus, il n'a pas hésité à déverser de l'essence sur des occupants de la forêt qui, à ce moment-là, bloquaient un accès en étant accroché sur un arbre, quoi. Donc ce type a vraiment... Ce type est odieux. Voilà.
Oui, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, ce commis de l'État ou ce commis de l'Andra, mais effectivement, il est indéboulonnable. Et donc, récemment, vous avez été confronté à sa présence, ainsi que celle du directeur de l'Andra, je crois.
Oui, bah, pour revenir du coup sur ces expropriations, je finis vite fait aussi sur le harcèlement et le chantage qui a été fait sur les agriculteurs ces dernières années. On a appris en 2018, il y a eu la fuite d'un document de l'Andra. C'est un tableur Excel sur lequel il y a eu du fichage de faits sur les agriculteurs où on peut voir leur nom, prénom et des catégories maîtrisées, difficiles à maîtriser ou maîtrisables. Donc on remarque que aujourd'hui avec les expropriations, avec la dupe, l'Andra avance à vitesse accélérée et essaye d'acquérir tous les territoires qu'elle n'a pas pu avoir avant, quoi.
On peut trouver ce document quelque part ?
Il a été cité plusieurs fois dernièrement sur burburbur.info quand on parlait des expropriations. Et sinon, c'est un document, la source première, il est sur lesmonstresdecigeo.noblogs.org que je citais tout à l'heure.
D'accord.
Du coup, donc, par rapport à ces expropriations, avant de rencontrer Emmanuel Hans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Quand il y a eu ces annonces que les courriers ont été reçus, on a réactivé la machine, la mobilisation locale. Donc, on a organisé, le Front juridique et le groupe de travail foncier ont organisé deux réunions publiques destinées aux personnes qui étaient concernées par les expropriations pour un peu décortiquer les dossiers et puis pour voir aussi comment résister à ça, notamment à travers des recours juridiques. Il y a eu, du coup, dans l'optique de ces réunions publiques, pas mal d'affichages et de porte-à-porte qui a été fait. Il y a des banderoles qui ont été faites, qui ont été affichées dans plusieurs lieux collectifs. Et il y a aussi des affiches Stop Expropriation, Stop CIGEO qui ont été accrochées aux fenêtres des maisons. Il y a aussi eu, dernièrement, dans la région, en Meuse, il y a des grosses boîtes de recyclage qui nous sont imposées par la Codécom. Avant, il y avait un ramassage porte-à-porte des sacs de recyclage. Maintenant, il faut tout centraliser dans des boîtes, donc du coup, elles ont été taguées. C'est un nouveau support de communication plutôt agréable, donc que ce soit Andra Dégage, Stop CIGEO ou Emmanuel Hans Dégage. Un peu plus traditionnel par chez nous, il y a aussi des bottes de paille empilées sous forme de murs sur la route du laboratoire qui ont aussi été taguées. Et c'est plutôt appréciable de voir que en fait, le message y reste affiché pendant plusieurs semaines, voire un peu plus. Donc ça, c'est agréable. Ce que je disais, c'est qu'il y a eu plusieurs réunions publiques d'organiser par des opposants à CIGEO. Et quand l'ANDRA, qui n'organisait pas de réunion publique, a appris que nous en faisions de notre côté, ils ont décidé d'en organiser une à Mandrampa-Roye aussi, donc là où on en faisait une. Donc ils ont fait une réunion publique 2 jours avant la nôtre. On se demandait un peu pourquoi, parce qu'on se demandait s'ils allaient vraiment nous servir la soupe, comme quoi les expropriations c'était une bonne chose pour le territoire et qu'on allait voir nos villages se faire détruire, nos terres se faire exproprier pour les bienfaits de l'ANDRA et pour un projet de poubelle nucléaire. Enfin, on s'attendait un petit peu à un discours un peu déconnecté. Donc cette réunion publique a été en présence, organisée par donc, le directeur de l'ANDRA, Patrice Torres, et Emmanuel Hans, dont je parlais tout à l'heure, qui était de toute façon entouré de leur garde du corps. Il y avait une 60aine de personnes dans la salle, quelques pro-CIGEO, des personnes concernées par les expropriations qui se posaient des questions, et puis aussi des opposants. Et suite à des coupures d'électricité, suite à pas mal de chahuts, Emmanuel Hans a été enfariné. Il y a eu des G2 aussi qui ont bourlingué dans la salle. Donc plutôt, ça c'était l'accueil qui leur avait été réservé, et ça a été plutôt chouette aussi de voir que ça a fait plaisir à des gens du coin, de savoir que Emmanuel Hans avait été enfariné. Enfin, il y a vraiment des personnes qui le supportent pas en fait dans le coin, des agris, des élus et autres qui clairement avaient le sourire au visage quand on leur a raconté l'histoire, quoi. Donc cette histoire de réunion publique, ça s'inscrit dans le contexte aussi de l'enquête parcellaire. Donc c'est-à-dire que légalement, pour faire passer ces expropriations, l'ANDRA est tenu de tenir des permanences publiques où il y a des commissaires enquêteurs qui donne des informations sur le dossier aux personnes concernées par les expropriations. Donc ça a duré un mois, du 18 mars au 12 avril, et ça s'est tenu dans plusieurs communes le long de la voie ferrée ou à Bure, Mandre, et à d'autres communes en Haute-Marne, Cirefontaine, Giomé, etc. Donc l'idée, c'était de consulter les 5500 pages de dossiers qui n'étaient pas sur Internet à ce moment-là pour constater effectivement sa parcelle et les bouts qui allaient être amputés de sa parcelle, pour regarder un peu plus en détail le projet CIGEO à travers les expropriations. Ce que je disais tout à l'heure, donc, c'est que c'était en présence de commissaires enquêteurs. Ce qui était assez navrant, c'était de constater qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, parce qu'à un moment, la question leur a été posée sur des détails du tracé de la voie ferrée, donc en mentionnant l'ITE, parce que l'ITE, c'est le nom de cette portion de voie ferrée, installation terminale embranchée, et en fait, ils ne savaient même pas c'était quoi l'ITE, ce qui est plutôt décevant de la part de personnes qui sont censées informer sur un projet lié aux expropriations de terres en cours, quoi. Enfin, en fait, ils ne savaient même pas de quoi y retourner. Donc ça, c'était assez déroutant. Donc on sait, il y a déjà eu des refus de laisser ces terres à l'ANDRA, qui sont d'abord passés par les communes en conseil municipal. On sait par exemple que Mandrampa-Roye, qui avait quelques terres convoitées par l'ANDRA, a refusé de les céder. Donc ça veut dire que la commune va vers une procédure d'expropriation. Concernant les particuliers, suite aux réunions publiques qui ont eu lieu, il n'y a pas eu encore l'échéance pour manifester un refus. Si je dis pas de bêtises, Ça viendra un peu plus tard. Concernant l'enquête parcellaire, ce que je disais tout à l'heure, que ça s'était terminé le 12 avril, là, on vient d'avoir le rendu de cette enquête. Les commissaires enquêteurs ont fait un petit dossier où ils font un résumé de... un copier-coller, puis un résumé de toutes les interventions qu'il y a pu avoir en permanence. En termes d'étapes par rapport à la suite concernant les expropriations, au moment où le préfet de la Meuse publiera son arrêté de cessibilité, ce sera le moment où... si je dis pas de bêtises, les recours juridiques vont pouvoir répondre à ça.
Tu disais que la commune de Mandre en Barrois a refusé de céder des terres et donc ça chemine vers une expropriation. Et pourtant, il y a quelques années, ils ont été d'accord pour céder le Bois-le-Jus. Comment tu expliques ?
C'est pas le même conseil municipal.
D'accord, ça a changé.
Oui, c'est plus le même maire aujourd'hui.
Voilà, d'accord.
Et aussi, l'ancien conseil municipal, ce qui avait été dénoncé aussi, c'était les conflits d'intérêts. Parce qu'il y avait des personnes de la famille, des élus qui travaillaient à l'Andra, en fait. Donc du coup, ça avait été attaqué à un moment qu'il y avait conflit d'intérêts dans le fait de voter l'échange du Bois-le-Jus.
D'accord.
Mais comme dit, ça c'était l'ancien conseil municipal.
Après la fin de l'enquête parcellaire, sur les parcellaires et le bilan des commissaires enquêteurs, est-ce qu'il y a eu d'autres événements de rassemblement importants ?
Justement, aussi, il y a eu des rencontres printanières antinucléaires et antiautoritaires. Donc, en gros, une semaine antinucléaire qui a été organisée en avril. Et l'objectif, c'était notamment de faire des ponts, des connexions entre... différentes luttes antinucléaires actuelles et passées, donc pour lutter contre la relance principalement. Donc c'était un événement qui était organisé entre plusieurs lieux collectifs, donc entre la maison de résistance de Bure et l'ancienne gare de Luméville principalement. Enfin, il y avait aussi une autre colloque et un autre lieu où des ateliers étaient organisés. Donc pendant une semaine, il y avait à peu près 70 ateliers qui ont été tenus, plusieurs en parallèle, et ça a réuni près de 300 personnes, quand même. Et voilà. Parmi les moments, moi, que je retiens, il y a notamment le samedi après-midi où une assemblée antinucléaire a été tenue. Ça a duré un peu plus de 3 heures, quand même, où il y a eu présentation de plusieurs... lutte antinucléaire actuelle ou passée pour un peu échanger sur la grande question de comment lutter contre le nucléaire aujourd'hui. Et parmi les luttes qui étaient présentes, il y avait des personnes du Bugey, il y avait des personnes de la Hague, il y avait des personnes d'Allemagne, et notamment qui nous parlait du projet d'usine de retraitement d'uranium à Lingen, des liens entre Framatome et Rosatom en Allemagne, où du coup on parlait beaucoup de la guerre en Ukraine aussi. Il y avait aussi des personnes de Caen, des personnes de Lille et des personnes de Chaux. Voilà. Et du coup, pour les prochaines mobilisations à venir, le week-end du 15 août, j'ai plus les numéros en tête, mais le vendredi, samedi, dimanche, il y aura le Festival des Burlesques près de Bure, qui est un festival festif sous forme de chapiteaux, avec pas mal de spectacles, pas mal de concerts, de projections, d'informations sur CIGEO. Donc il y a cet événement-là qui va être organisé donc, le week-end du 15 août. Et pendant une semaine, du 5 au 11 septembre, il y aura à l'ancienne gare de Luméville la deuxième édition de la Fête des Barricades. Donc il y avait déjà une Fête des Barricades qui avait été organisée en 2022 parce que la gare est clairement une barricade menée contre CIGEO. enfin, en achetant ce lieu il y a presque 20 ans, des opposants en fait, savaient que ça allait mettre un gros bâton dans les roues de ce projet de voie ferrée. Et en fait, on ne compte pas s'arrêter au recours juridique pour résister à cette procédure d'expropriation et résister à CIGEO. Donc du coup, du 5 au 11 septembre, il y aura la fête des barricades. Plus d'informations suivront sur burburbur.info. Et en attendant, c'est toujours possible de venir, en dehors des événements, nous rendre visite, vous installer, construire des cabanes, monter des chantiers. Donc il y a plusieurs lieux collectifs ouverts où c'est possible de venir. Donc je parlais de l'ancienne gare de Luméville, mais il y a aussi la maison de résistance à Bure. Il y a aussi La Franchie, qui est une maison à Mandran-Barrois, où il y a actuellement, depuis 3 jours, un chantier de 3 semaines pour refaire la charpente et la couverture du toit. Et il y a un autre lieu qui s'appelle l'Augustine à Mandran-Barrois, où tous les jeudis, il y a un bar qui est ouvert avec un restaurant super bon et une vente de légumes donc produits par les semeuses à Cirefontaine, donc ce que je disais tout à l'heure, sur un terrain qui est menacé d'expropriation. Voilà.
Deux petits mots sur l'Augustine. Effectivement, l'Augustine, il y a un collectif de maraîchères.
Oui.
C'est ça. Et il y a aussi une boulangerie qui s'est installée.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est pas banal, et tu citais le restaurant et le bar qui est ouvert, je crois, une fois ou deux fois par semaine.
Le jeudi.
Voilà. Donc il y a de la vie.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.